Vous écoutez IDFM Radio, il est 16h. Bienvenue à tous dans votre émission Le Carré des Artistes. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du cinéma avec deux invités qui incarnent la persévérance, la passion. Il s'agit d'Adama Batili, acteur originaire de Saint-Denis, et Mamadou Traoré, nouvellement dans le cinéma. Mamadou ?
Ouais, on va dire premier gros projet, on va dire.
Premier gros projet pour Mamadou Traoré qui est avec nous et qui est originaire du 95, on peut le dire fièrement, de Deï-la-Barre. Voilà. Merci d'être avec nous les garçons.
Coucou. Merci à toi.
Comment ça va ?
Mon invitation, ça va très très bien.
La forme ?
Ouais, content d'être là.
Bah oui, bah contente de vous recevoir. Alors Adama, on te connaît hein, sur IDFM Radio, on a pu avoir l'honneur de t'avoir plusieurs fois, que ce soit dans Focus ou dans le Carré des Artistes.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu es venu accompagner.
Je suis venu accompagner de mon cousin.
Une histoire de famille.
C'est une histoire de famille.
Ok.
J'ai incité pour qu'il soit là parce que...
Il m'a saoulé, hein. Il m'a appelé 20 fois, ouais, ah ouais. T'as pas le choix, ah ouais. C'est soit il vient ou je viens pas.
Non, j'arrive pas jusque là, mais voilà. J'ai insisté pour qu'il soit présent parce que c'est un projet noble qui défend. Et voilà, je l'accompagne du début jusqu'à la fin et je suis très heureux qu'il soit là.
Bon, moi, ça me fait content. Je suis content de partager ça avec lui parce qu'il m'a toujours conseillé. Il m'a toujours conseillé dans mes choix. Donner des conseils pour mes castings et tout, pour mes projets. Et puis là, il a vu le projet quand même naître. Donc, c'était important aussi de partager ça avec lui.
Ouais, alors, cool. Ouais. Adama, toi, ton parcours, on va dire, il est déjà bien installé. Hein, ouais. Une ascension avec l'apparition dans plusieurs séries, dans plusieurs films. Le dernier en date, Overdose, n'importe quoi, Bastion 36, Bastion 36 sur Netflix, ouais. Ouais. Que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais tu fais des apparitions aussi sur Narvalo.
Ouais, Narvalo, ouais.
Il y avait quoi
j'ai fait
encore
la saison 2 et la saison 3. J'ai fait Overdose, Denis Marshall.
Nous trois ou rien.
Pax Massilien. Ouais. De lui marcher l'année
donc
dernière.
C'est pas des petits, ouais. Voilà, c'est pas des petits ouais. films, c'est pas des petites séries, même s'il n'y a pas de petits films et pas de petites séries.
Oui,
hein.
Mais moi j'ai une préférence pour le dernier, là, pour Bastion 36.
Ah ouais, pour ah Bastion
oui.
36.
Ah oui, oui, oui. Franchement, je l'ai vu, j'ai pris une grosse claque.
Ouais.
Et il a un super rôle dedans. Ouais. C'est incroyable.
Toujours en sang, mais bon.
Ouais. Hein. C'est les deux derniers projets où je prends cher. Mais
c'est vrai.
Apparemment, la prestation, elle est,
ah oui.
elle est
validée. Elle est validée
et
reconnue par le milieu, par, ah la, oui, oui. par l'institution.
C'est
plus important.
Très belle prestation.
Ouais. Ouais. Donc, allez le voir, hein, si, ce film, si vous ne l'avez pas encore vu, Adama ouais. y est. Et, c'est,
disponible vraiment, sur Netflix.
Voilà, disponible sur Netflix. Merci. Mamadou, toi, tu as pris les choses en main.
Voilà.
Tu as décidé de créer, de fabriquer ton
voilà.
film
c'est ça,
qui
exactement.
S'appelle Résilience.
Ouais. Moi, j'étais déjà dans le milieu. Ça faisait un petit moment déjà que j'étais un peu dans le milieu. Mais j'ai voulu faire un film qui aborde la thématique du deuil parce que pour moi, c'était très important. Et puis, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui abordaient cette thématique-là. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage hein, parce que bah, la mort, ça fait aussi partie de la vie. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi on n'en parle pas. C'est un thème très universel quand même. Et puis, je regardais un petit peu comme ça et je trouvais pas de film qui parlait de ça. Je me suis dit, bah, tiens, en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un film qui parle de cette thématique. Et puis, pour moi, c'est une thérapie. Ça me fait du bien parce que j'ai perdu... mon petit frère, il y a 2 ans et demi.
On va en parler, voilà. Nous dis pas tout.
Oui, d'accord.
Donc c'est bien, t'as bien teasé ton
ouais.
film Résilience.
Il est bon. Ah, il est très bon.
Mais du coup, avant de commencer, vu que les auditeurs ne vous connaissent pas, ou en tout cas souhaitent vous redécouvrir, est-ce que vous pouvez à chacun, voilà, chacun votre tour, vous présenter et tu parlais un petit peu de ton parcours, Mamadou, dans le cinéma, voilà, nous dire un peu ce que vous avez fait jusque-là.
D'accord. Alors, moi, je m'appelle Mamadou Traoré, j'ai 41 ans. J'étais un peu dans le milieu parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi assistant déco pour des gros tournages. Le dernier tournage que j'ai fait en assistant déco, c'était le spin-off de The Walking Dead, voilà, Daryl Dixon. Donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi coach sportif, mais en fait, je suis arrivé dans le cinéma par cette casquette de déco, par la déco.
Donc t'as vu Daryl Dixon ?
J'ai vu Daryl Dixon pendant 6 mois.
Mais oui, c'était pas loin, en plus c'était dans le 95, non ?
On était un peu partout, ouais. On était à la Cité du cinéma, okay. On est parti à Angers, à Tours, voilà. Mais voilà, c'est une belle expérience.
Gros projet.
Et moi je suis arrivé un petit peu comme ça dans le cinéma pendant des années, j'ai bossé dans une boîte qui fait de la location de décors pour du cinéma, donc j'ai eu l'opportunité très rapidement de travailler à la déco. Et puis, suite à ça, après, j'ai voulu passer la boîte pour laquelle je travaillais, elle a fait un licenciement économique. Donc, passé mes diplômes de coach sportif et j'ai créé Ciné Coaching. Ciné Coaching, c'est du coaching sportif pour les comédiens et pour les gens du cinéma. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coacher quelques comédiens. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir comment ça se passe dans un cours de théâtre parce que peut-être que ça va m'aider dans mes coachings. Et là, je suis arrivé et je suis
tombé. Révélation.
Ah ouais, révélation. J'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? En fait, j'ai découvert mes émotions. Je me suis dit, mais avec l'éducation que j'ai eue, on m'a toujours dit, bah, faut pas pleurer. Ouais. Nanana. Et là, j'arrive dans un truc, on me dit.
Pleure.
Ouais, pleure.
des larmes.
Hein. Avec des larmes et je dois travailler avec mes émotions. Je découvre que j'ai un pouvoir magique. Je me suis dit, mais c'est super. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai fait une formation de théâtre. Je me suis retrouvé dans une école de théâtre.
Incroyable.
Et après, une école d'acting studio. Et c'est comme ça que j'ai passé des castings. Et voilà.
Et avant, tu n'avais pas spécialement, on va dire, de passion spécifique pour cet art-là?
Non, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, pour moi...
Tu regardais des films quand même?
Oui, je regardais des films, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça.
Ouais.
Ça ne m'intéressait pas plus que ça.
Tu ne disais pas comment c'est fait
Non, je savais un peu comment c'était fait parce que j'étais dans la déco. Donc j'avais ce regard-là, mais ça ne m'intéressait pas, c'est tout simplement.
C'est marrant. Et c'est quel film alors qui t'a, on va dire, après que t'es rencontré un peu le cinéma, c'est quel film t'a mis une baffe, t'a réveillé?
Moi j'aime beaucoup Denzel Washington, c'est mon acteur préféré.
Je crois que sa voix elle est décédée, la voix de Denzel Washington. C'est Morgan Freeman.
C'est Morgan Freeman. Ouais.
Il est deux, Eddie Murphy aussi.
Ah ouais.
Et donc j'aime beaucoup moi Denzel Washington dans Training Day. Moi c'est
les grands classiques.
Voilà. Après il y a des acteurs français aussi que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, comme Roche Dizem, Sami Bouajila. Quand j'étais en assistant d'écho, j'ai travaillé sur son long métrage qui s'appelle Les Miens, donc j'étais avec eux pendant un petit moment et voilà, tu prends une claque d'être avec des gens qui sont...
Et dans les coulisses là en plus, tu vois tout.
C'est la crème des crèmes, quoi. C'est des gens que j'aime beaucoup, en tout cas, voilà, Tarahim, Omar Sy...
T'as eu l'occasion de travailler avec eux ou pas?
Omar Sy, non. Tarahim, non. Oui. Roche Dizem, bah oui. Oui. Sami Bouajila, oui. Après, qui? Thierry Lhermitte, Patrick Timsit.
Des grands noms, quoi.
Ouais, des grands noms. Quand t'es à côté des gens comme ça, tu passes des journées avec eux, quand même, c'est...
Bah, t'apprends, en fait. Bah,
t'apprends direct sur le terrain.
C'est ça, t'apprends direct sur le terrain et puis on te donne des conseils, surtout. Moi, il y a des conseils qu'ils m'ont donnés. Un jour, ils m'ont dit... Ben, je leur ai dit que j'étais comédien, que j'étais en formation. Ils m'ont dit, tu sais, il faut, au début, quand tu commences, tu peux avoir certains doutes parce que tu ne sais pas si tu es légitime ou pas. Ils m'ont dit, tu sais, ce que toi, tu vas apporter sur un plateau, il n'y a personne qui est capable de l'apporter. Et j'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit, ouais, parce que tu es unique. Et juste cette petite phrase, je me dis, mais ah ouais, c'est un truc de fou ce qu'il vient de me dire, en fait. Il vient de me
dire. T'as réalisé que tu étais vraiment unique.
Ouais, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Des fois, on est là, on se dit, mais peut-être que ce comédien, il est meilleur que moi parce que ça fait longtemps qu'il est... Mais non, mais en fait, ce que toi, tu vas apporter sur le plateau, il n'y a que toi qui es capable de l'apporter. Et j'ai pris ce truc, j'ai dit, waouh, ah ouais.
Comme quoi, des petites phrases comme ça de motivation, ouais. Ça peut faire
ça
des,
te booste.
Ouais, des ouais. Grandes choses. Merci Mamadou, tu restes avec nous. On va continuer notre découverte de ton parcours et surtout de ton premier film, Résilience. Adama, est-ce que tu veux revenir un peu sur ton parcours et nous dire un peu comment ça s'est passé, comment t'en es arrivé à là aujourd'hui?
Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un écrivain, Rachid Santaki, qui a écrit un livre sur un voleur de carte bleue à la ruse, un mec de chez nous qui s'appelle Amine Betache, que je salue d'ailleurs. Et il a mis mon nom, Adama dit le maire de la ville, parce que depuis tout petit, je traîne partout, je connais tout le monde. Et il a été impressionné par les personnes que je connaissais de sa génération, parce qu'elle a 19 ans plus que moi.
Ouais.
Et il avait entendu que des bons échos sur moi, et ça l'a marqué. Et il avait mis mon nom, Adama dit le maire, qui ouvre et ferme les portes des cités. Suite à ça, il m'appelle, il me dit... On va faire des vidéos pour promouvoir le livre. Est-ce que t'es partant pour venir avec nous et tout? J'ai dit, ouais, pas de problème et tout. Donc, je l'avais suivi un peu partout. Et j'avais participé à une vidéo à Place du Caquet. Et c'est là où j'ai eu un déclic pour devenir comédien. J'avais appelé mon conseiller d'orientation parce que je venais d'arrêter l'école. Ami Diallo, que j'embrasse d'ailleurs aussi, que je remercie, qui m'a présenté un prof de théâtre. Et pendant 3 ans, j'avais fait un gros travail sur moi. J'avais pris des cours de théâtre, j'avais perdu du poids aussi à l'époque. Je m'étais focalisé sur mon jeu, sur mon envie et ma passion de devenir comédien. Et j'avais fait des figurations aussi, ouais, jusqu'au jour où j'ai eu la proposition de casting pour le film de Kairon, Ne trop rien. Dans le rôle de Mamadou.
Hein, quelle coïncidence. On va dire que c'était le premier vrai projet,
dans lequel j'ai eu un vrai rôle. Et c'est là où tout a commencé. En fait, j'ai été validé dès les premiers essais. J'ai passé l'école bac, mais j'étais le seul comédien noir, donc j'ai capté que c'était moi qui était validé. J'ai le seul comédien qui était présent. Tous les autres, c'était en callback. Mm. Et
deuxième chance,
on va dire.
Ouais, pour ceux qui...
Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que jour au lendemain, je me retrouve sur le plateau avec Léa Bekti, avec Gérard Darmon, avec Eric Ebouané, avec des Abou Bretman.
Et là, tu peux pas faire semblant, là. Tu dois tout donner.
Ah ouais. Voilà, donc c'est à partir de là que tout a commencé. Et
est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit vraiment, c'est vraiment ce métier que je veux faire? Le fait d'être sur le plateau quand tu es.
Bien sûr. Ouais. C'est là, tu te dis, ah ouais, c'est un autre level déjà.
T'as pas flippé?
J'ai eu une grosse boule au ventre. Ouais. le vrai track que j'ai eu, c'est pas sur le plateau, c'est quand j'ai passé Kassinka m'a envoyé les textes à prendre. Faut savoir que c'est Charlotte, l'ancienne assistante de Mohamed Bellamar, qui me contacte. Et avant, je faisais des silhouettes et figurations. Tu viens sur le plateau, on te donne une phrase à dire et tu la poses, on prend pas, tu vois. Ouais. Et là, c'est, t'apprends un texte, tu viens, c'est un rôle. Voilà, Thomas Batili qui interprète Mamadou. C'est là, c'est toi, t'as vu.
Tu proposes quelque chose.
C'est un autre level, c'est. Voilà, c'est comme il a dit tout à l'heure, t'es unique, c'est toi, tu proposes ton jeu, ta petite touche et.
Et alors, comment tu t'es préparé à ce rôle?
Bah, franchement, je me suis enfermé dans une salle au taf. J'ai eu un collègue de.
Là, t'avais déjà ton prof de théâtre ou pas?
Oui, il avait déjà fait ses cours.
Voilà, exactement. Et j'allais voir mon prof et je m'avais perfectionné.
Il t'a briefé sur le
jeu et comment jouer et être à l'aise et faire mon travail de respiration, de. Voilà, franchement, d'articulation. Franchement, c'était.
Et après, ils ont essayé de te guider pendant le casting. Ils m'ont guidé,
ils m'ont dirigé. Sur le plateau Kairon, il m'a dirigé et ça a fait le résultat qui.
Qu'on a vu, hein.
Que vous avez vu.
Nous, on était
là,
ouais,
en première
avec mon
père.
Tu sais
que ton père m'a mis la larme à l'œil.
On avait été.
Ton père,
on était c'était la fierté.
Ouais.
Un gars qui avait grandi dans notre quartier qui passait au cinéma. Et en plus, à Saint-Denis. C'était au Stade de France.
C'était au Gaumont. Ouais.
Ouais. Donc c'était.
C'était au Gaumont de Saint-Denis.
C'était l'événement, quoi.
Et ton père, depuis toutes ces années, je ne l'avais plus revu, moi.
Ouais.
C'est-à-dire que je l'ai revu là, ça m'a.
Ça a fait bizarre, ouais.
Ah ouais. Et Kéron, il était là, Léla était là. Les médias étaient là, franchement toute ma famille était là. Mmh.
Tout le monde était.
Première fois qu'on était tous réunis à un événement, toute ma famille.
Ah ouais,
première fois.
Ouais, la maman, tout ça.
Tout le monde.
Ah, elle était fière.
C'était un truc de fou. Ah, c'était un moment inoubliable.
Bon, les gars, on va faire une petite pause.
Ouais.
Et on va continuer à parler cinéma, parler anecdotes, parce que c'est super intéressant. Et peut-être que ça peut donner des idées aussi à ceux qui nous écoutent de se lancer, d'essayer. Et en fait, si on ne tente pas, on ne sait jamais si.
On ne peut pas savoir.
Exactement.
Qui ne tente rien à rien.
Alors, le premier titre qu'on va écouter de cette émission, Le Carré des Artistes, pour ce vendredi, c'est toi, Adama, qui l'as choisi. Rick Ross.
Rich Forever,
un son bien à l'ancienne comme on les aime.
Ouais.
A tout de suite sur IDFM Radio, restez bien connectés.
Regardless of how it goes down, life goes on. Am I right? Oh. On the way we shed some tears, every day we sacrifice, so we could be standing here. Oh, what a hell of a life. Been winning so many years, and the future is bright. Now it's very clear that we gon' be rich forever and ever and ever. Oh, 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 we gon' be rich forever. Oh, 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 we gon' be rich forever and ever. I remember being blind to it, till the day I put my mind to it.
pen and pad on the dresser for me to fine tune it. I sat in the corner, made up my mind, do it. Def Jam on my heels, should I sign to it? $1 million advance for me to rhyme fluent. Every day I'm hustling on every corner booming. Back of the Phantom, couldn't fathom I was such a student. Grandfather deal for the Godfather. Lucian Grange from the ghetto, I follow God's orders. And he told me I was rich forever. Then he showed me I was rich forever. They call me Mr. Roberts when I'm in the bank. Digits like the Dodgers when it come to Franks. Flossing out in Compton like I got a cape. Rosemo tried to fight it, but barely niggas fade. White sheet, yellow tape, where your dogs at? Count a million cash, can you blog that? Me and niggas your type, never exchange numbers. Wanna conversate and steal game from us. See the watch, now you wanna know the name of it. Never playing, so I went and got the frame flooded. Cartier, Hublot, I can name a dozen. Your shit push back, cause it ain't buzzing. Now these thugs actors all of a sudden. Niggas hustle backwards all of a sudden. Can't talk snow where the soft at. Your man got murked, but you squashed that. Hope you know what we call that. I think you know just what we call that. All you pussy boys fall back. Big face, rolling rose gold, cost 40. Platinum 21, it's time to go and spoil shot it. You only live once, I'm screaming yellow in the V-High. Time fly fast, ballin' with my nigga T.I. Ciroc, no glass, smiling women in my presence. Tall supermodels always fall in my possession. Atlanta housewives taking pictures in my section. But I only got a thing for young bitches with aggression. Show me that affection that a D-boy craves. Rich forever in my D-boy ways. So dope, blue jeans, new J's. So dope by any means all day.
Been winning so many years. And the future is bright. Now it's very clear. Then we gon' be rich forever and ever and ever. Oh, 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 oh. We gon' be rich forever.
100 mil ain't enough. Got 100 women, gotta deal with it, love. Worth 40 M's, is he still dealing drugs? Cigarettes, speedboats, but he still with the thugs. Club live, Louis shots on a Sunday. Grinding even be legit one day. Order some more bottles, cause I'm on one. I know a pussy wet, and she wanna come. She wanna come, maybe come over. Stop dealing with them niggas, you need one soldier. Keep you as my bitch forever. Cause you know a nigga rich forever.
Been winning so many years, and the future is bright. Now it's very clear. Then we gon' be rich forever and ever and ever. Oh, 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 oh. We gon' be rich forever.
On the way we shed some tears. Every day we sacrifice.
Vous êtes de retour dans le Carré des Artistes sur IDFM Radio. Bienvenue si vous venez de vous connecter sur le 98FM. Vous nous écoutez en DAB+, vous nous écoutez aussi sur l'appli IDFM Radio et sur IDFM98.fr partout dans le monde. Wow. Eh ouais,
quelle chance. C'est la petite touche de Sabrina Végache.
Avec nous, vous l'avez entendu, Adama Batili, acteur. Mamadou Traoré aussi est avec nous. Mamadou, tu as créé un film,
ouais.
un court-métrage qui s'appelle Résilience.
C'est ça.
Et donc, tu nous en as parlé un petit peu dans ton introduction. Tu nous expliquais que c'était un film sur... le deuil.
Voilà, c'est un film qui aborde la thématique du deuil, pas que, parce que ça parle aussi de l'amour d'une famille, ça parle aussi de la relation d'un tonton et de son neveu, et ça aborde aussi la différence entre deux personnes, deux membres de la même famille qui ont perdu une personne et qui ne sont pas au même niveau dans le deuil. Faut savoir que même si c'est deux personnes de la même famille, ils n'ont pas la même relation avec le défunt, donc forcément...
Ça a des impacts.
Ça a des impacts et c'est un deuil différent. Mm.
Je comprends. Alors, à quel moment tu as décidé, toi, de te lancer ? On l'a compris, hein, pour le rappeler un petit peu aux auditeurs, tu étais déjà dans le milieu du cinéma, mais plutôt l'envers du décor, j'ai envie de dire, vraiment le décor pour
voilà,
le coup.
Plutôt dans la déco. Voilà.
Même si tu as voilà, t'as fait des cours de théâtre, tu as fait une école.
Voilà, j'ai fait deux écoles.
Ouais. Deux écoles pour être acteur.
C'est ça.
Et à quel moment tu t'es dit, c'est pas rien de faire un court-métrage, à quel moment tu t'es dit, allez, je me lance ?
J'avais cette idée déjà depuis un petit moment, et après j'avais fait des petites publicités en comédien, des petits courts-métrages en tant qu'acteur, mais c'est vrai que c'était le premier projet où je réalisais. Et là, je l'ai co-réalisé avec Eric Debrosse, donc du coup on est deux réalisateurs, et comme j'ai le rôle principal aussi, ça me permettait d'être à fond dans mon rôle et de pouvoir être aussi dirigé par un réalisateur.
Un œil extérieur aussi.
Un œil extérieur. Ouais. Et en plus, d'autant plus qu'Eric, il est réalisateur et il est aussi comédien.
Okay.
Donc c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir aussi le retour d'un comédien qui connaît vraiment profondément le jeu. Et donc voilà, donc moi je me suis dit, moi c'était parce que ce qui m'a poussé à faire ce film, franchement c'était un mal-être. Ce film, c'est
un exutoire.
Voilà, c'est ma bouée de sauvetage. Okay. Sans ce film, je serais resté au fond de l'eau, pour dire la vérité.
Ouais, ouais.
C'est des épreuves qui sont difficiles. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu mon petit frère.
Et donc il y a deux ans.
Oui, il y a à peu près deux ans et demi.
Okay.
Et donc je me suis dit, comment je vais faire ?
Il faut que ça sorte.
Et puis il m'a toujours poussé dans l'acting. Donc je me suis dit, en plus comme il m'a toujours encouragé dans l'acting, je me suis dit, mais comment je peux faire passer un message aux gens et en même temps me faire du bien, m'apaiser. Et j'avais besoin J'avais besoin de me délester d'un poids que j'avais sur le cœur. Et puis, le fait de passer par ma passion, pour moi, c'était important. Déjà, ça commençait par l'écriture. Le fait d'écrire ce scénario, ça m'a donné de la force et ça m'a permis de me délester tout ça. Et puis, en avançant sur le tournage, je me suis rendu compte qu'à chaque journée de tournage, je me délestais un peu plus de tout ça.
Ça me faisait du bien.
Ça me faisait du bien. Et que j'ai construit aussi quelque chose d'important, parce que pour moi c'était quelque chose d'important d'avoir un lieu où je me sens en sécurité,
une safe place, ouais.
Voilà, c'est ça, pour me délester de tout ça émotionnellement, d'avoir des gens qui sont autour de moi qui m'aiment, d'être dans le jeu. Et je suis passé par mon personnage, par Djibril, qui traverse tout ça. Et aux yeux en passant par les yeux de mon personnage, je me suis vraiment rendu compte que je suis passé par des moments difficiles. Et je m'en rendais compte sur le tournage.
Tu as fait une rétrospective de ce que tu avais vécu,
ouais,
en fait.
Tout est remonté, en fait.
Ouais. Voilà, tout est remonté. C'est ça.
Et ça a dû être intense. Et en fait, tu as dû revivre
en fait, c'était
l'événement.
C'était intense, c'était éprouvant, mais en même temps...
C'est une thérapie
et je voyais bien que entre Djibril, mon personnage, et Mamadou, il y avait énormément de points en commun et il y avait cette fragilité. Et au début, j'avais peur de ça parce que je me suis dit, j'espère que Mamadou ne va pas être trop submergé par rapport à Djibril.
Ben oui, la frontière finalement, elle est super mince.
Alors là, elle est super mince. Et quand je parle avec des copains réalisateurs, ils me disaient, mais attention, Mamadou. Peut-être que ça va être compliqué pour toi,
ouais.
Parce que là, tu descends vraiment dans des choses. Tu peux aussi le faire interpréter par un autre comédien.
Mais
j'ai
oui,
dit,
pourquoi t'as pas voulu que ce soit quelqu'un?
Non, parce que c'est trop. Pour moi, j'avais besoin d'être au cœur.
Tu voulais te confronter.
Je voulais aller dans le dur. Pour moi, c'était important d'y aller.
C'est vachement courageux parce que t'aurais pu écrire le texte et te dire, ok, j'écris et je fais jouer par.
Mais vous voulez revivre en fait.
Voilà, je voulais revivre tout ça. Pour moi, c'était important. De revivre tout ça et de me prendre tout dans la tête, parce que pour moi c'était ça.
Le seul moyen pour passer
voilà,
alors pas à autre chose, parce qu'on passe jamais à autre chose, ouais. Mais en tout cas pour continuer d'avancer, voilà. Sereinement,
c'est ça,
ouais.
et la meilleure récompense c'est que là, depuis que la bande annonce elle est sortie, je reçois des messages de gens qui me disent, moi j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma sœur, en regardant ta bande-annonce, ça m'a donné des frissons, j'ai hâte de voir le film. Mais c'est ça ma plus belle récompense.
La bande-annonce, elle est dispo ?
Oui, elle est dispo.
On peut la balancer ?
On peut la balancer, bien sûr.
C'est vrai ?
Ouais,
on peut. Bon, bah écoutez, je propose qu'on écoute la bande-annonce du film Résilience, du premier film, du premier gros projet. Peut-être que t'as fait des petites pubs, des petites choses comme ça.
Ouais, des petites pubs, des petits projets.
Mais là, c'est en court-métrage, c'est The Project.
L'objectif, c'était de le faire et de l'envoyer en compétition au Festival de Cannes. C'est ce qu'on a fait.
Et rien que ça.
Voilà, maintenant, on croise les doigts. Mais okay. Voilà.
Alors, on va écouter Résilience,
la bande-annonce,
et on se retrouve tout de suite.
La vie est comme une bougie qui se consume lentement.
Ainsi va la vie. C'est comme ça.
Éclaire chaque coin sombre avec les rires et l'amour de ta famille avant que sa flamme ne s'éteigne.
Vous m'avez dit la dernière fois, j'aurais voulu partir à sa place.
Quand la vie te donne des raisons de pleurer,
tu peux pas rester comme ça.
Montre-lui que tu as raison de sourire.
Tu dois dire que papi et papa sont ensemble dans le ciel.
En surmontant chaque épreuve avec résilience.
De l'autre côté, vas-y, dégage. De l'autre côté, vas-y, dégage.
Je sais pas s'il veut parler de son père ou s'il se sent pas bien ou je comprends plus là.
Ah, ça, c'est pas à moi de vous le dire.
Et on vient d'écouter la bande-annonce du film Résilience de Mamadou.
C'est poignant.
C'est ce que je disais. J'ai dit encore un film où on va chialer. Exactement, j'ai dit ça.
Exactement ça. Ah, franchement, la bande-annonce, ça fait.
Ouais. Ça fait un peu.
Ça secoue.
Un peu de frisson, ouais.
Ouais.
Alors, Mamadou, tu disais que tu avais écrit le script,
ouais.
Le texte. Comment l'écriture s'est passée?
En fait, l'écriture, elle est venue juste avant. J'étais sur un projet en assistant déco, là. Et justement, c'est quand j'ai arrêté ce projet où j'arrivais plus à dormir et j'ai fait une petite dépression. Je me suis dit, là, je vais me mettre à écrire.
Pardon de le couper, c'est une grosse dépression.
Oui, une grosse dépression. Non,
je me permets de couper de le dire parce qu'il minimise. Moi, la nuit, je l'appelais.
Dormais
3 heures du matin. Comment j'étais en mode pumper up.
Sur Paname. Non, mais.
Pardon, je suis désolé, je me permets. On rigole. Hey, t'es un fou, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Sur les réseaux, les 19h30 du matin, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas? Non, je dors pas, tranquille. Tranquille et tout, j'ai pas tardé là. Non, tu dors pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrivais pas à dormir en fait.
T'étais sur les réseaux, qu'est-ce que tu faisais sur les.
Non, j'arrivais plus à dormir. Donc je dormais plus et je mangeais moins. Et donc je me suis dit, de toute façon, j'arrive pas à dormir. Donc il faut que.
T'as senti que t'étais. Que c'était pas normal?
Ouais, c'était pas normal. Je savais ce que c'était, mais je me suis dit, il faut que je me mette à écrire. Il faut que je sorte quelque chose de tout ça en fait.
Pour toi, c'était la solution problème?
Pour moi, c'était la solution. Je me suis dit, mais il faut que. Faut que j'essaie de faire passer un message aux gens et en même temps, faut que ça m'apaise parce que c'est.
Et quand t'as écrit, alors tu t'es dit, je vais écrire mon histoire. Est-ce que c'est autobiographique ou alors pas du tout?
Non, j'en ai écrit deux autres avant. Résilience, c'est mon troisième parce que en fait, au début, j'avais pas compris. C'est juste parce que j'avais pas assez de recul, parce que j'avais trop la tête dedans, j'avais pas assez de recul et les deux premiers, je voulais trop rendre hommage à mon frère, alors que c'était pas le bon enchaînement. C'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait faire un film justement d'abord pour me faire du bien, pour commencer. Ensuite, pour faire passer un message aux personnes qui traversent la même chose. Et dans un troisième temps, rendre hommage à mon frère. C'était ça la solution, mais je ne savais pas. Donc au début, j'en ai écrit deux autres qui n'avaient rien à voir avec ça.
Mais alors, comment tu t'es rendu compte que c'était pas les bons, les deux premiers?
Comment je me suis rendu compte? J'ai pris du recul. Pendant un moment, je me suis dit, je mets de côté.
Ok.
Et
je laisse un peu mûrir.
Je laisse un peu mûrir et j'avais bien compris parce que ça mettait trop le personnage de mon frère en avant.
En avant et ça te faisait pas du bien en fait.
Voilà.
C'est surtout ça.
Exactement.
J'ai vu moi.
Voilà.
Alors comment t'as intégré Adama un peu dans ce processus de création? Est-ce que tu lui as demandé des conseils? Est-ce qu'il a lu des choses?
Il m'a envoyé le scénario.
Tu l'as vu?
Il m'a envoyé le scénario, je l'ai lu, je l'ai fait un retour, je lui ai dit ça c'est bon, ça je trouve que c'est pas nécessaire de le mettre en avant. C'est très bien, mais plus en avant ton ressenti et ce que t'as vécu toi à travers cette épreuve, que mettre en avant ce que tu as vécu avec lui.
Voilà.
C'est ça que je lui dis.
Alors, c'est quand même un exercice ultra difficile parce que, pour le coup, tu te livres... Enfin, c'est une mise à nu.
Oui,
c'est
une exactement.
Mise à nu. C'est ça.
Et comment comment t'as trouvé la force justement de te mettre à nu là? Bon, là c'est entre vous, entre guillemets, c'est pas public, mais le jour où ça va sortir, est-ce que t'es prêt?
Bah ouais, franchement je suis prêt. Maintenant là je suis prêt, mais c'est pas évident de parler de ses émotions.
Dans sa carapace.
Voilà, sur un plateau, il y a 20-25 personnes.
Surtout. Dans la communauté africaine, on peut
surtout,
le dire.
Surtout, mais...
chez nous, bah voilà, oui.
Bien sûr. Enfin, chez nous, c'est pas. Enfin, je dis africaine justement pour.
Africaine,
voilà.
Et c'est pour
mais
ça.
Mais surtout chez nous.
Ouais. C'est pour ça que le film aussi parle beaucoup d'émotions, parce que on a ce truc avec l'éducation qu'on a eue, où à un moment donné, bon, je vais pas.
Hein, ne spoil pas.
Voilà, mais il y a la maman qui dit à Djibril, arrête de pleurer.
Ouais.
Genre, t'es un homme, arrête de pleurer.
Ouais.
Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Bien sûr, t'es le bonhomme, t'es l'homme de la famille.
T'es l'homme de la famille et lui, Djibril, quand il est face à sa mère, il a un peu honte d'être dans cet état-là. Ouais. Mais en même temps, lui, c'est comme s'il découvrait ses émotions. Il découvre que à chaque fois qu'il parle de son frère,
les larmes coulent.
Ouais. Ça sort tout seul.
Ça sort tout seul et c'est plus fort que lui, il n'arrive pas.
Et t'as dit quelque chose de très juste en début d'émission. T'as dit la mort, ça fait partie de la vie.
Ouais.
Mais on sait que la mort c'est inévitable, mais on n'est jamais réellement préparé.
Si je peux me permettre,
Adama.
Désolé Sabrina. Là autour de la table, nous trois on a vécu une épreuve
difficile, ouais, c'est
très
clair.
Difficile. Si je peux me permettre, c'est un truc de fou.
Ouais.
Et moi pour ma part, c'est mon papa.
Ouais.
Il y a 24 ans.
Voilà.
Moi, Sabrina, c'est sa maman.
Ouais. Sa maman. Moi mon papa.
Il y a combien de temps? 20 ans.
Non, 2013.
Ah, 2013, d'accord, ouais, ok, je
vois. Et tu vois, et la mort de son père, paix à son âme,
oui.
C'est la première mort, nous, qu'on a vécue.
Elle était là,
dans le quartier.
Ça m'a impacté, tu vois.
Ouais.
C'était ma voisine.
C'était choquant pour nous.
Inès, c'était dans ma classe, Inès.
C'était choquant de voir la famille Batili vivre dans cet endroit-là, et le lendemain, plus personne. Ça nous a traumatisés, en fait.
C'est pour ça que j'ai eu le recul à travers ton scénario que tu m'as envoyé, script et tout, te dire c'est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que ce que tu as vécu, je l'ai vécu il y a 20 ans, 24 ans. J'étais voir un psychologue derrière, j'ai fait une thérapie, le sport, autour qui me permettait, mon club qui m'a permis d'évoluer tout ça. Mais il y a un truc de fou, je crois que tu te rends pas compte. Elle l'a vécu.
Mais surtout quand c'est. Tu vois, quand tu as une personne âgée, tu sais que ta grand-mère ou ton grand-père, ils vont finir par partir. Même ça, c'est choquant. Mais quand c'est brutal.
Nous, c'était brutal.
Ah bah ouais.
Voilà, nous, ça a été brutal. Wow. Quand c'est brutal.
C'est traumatisant.
C'est traumatisant.
C'est traumatisant.
Ça laisse des traces.
Tu dis, la personne, elle était là. Elle était là. Et toutes les choses que tu vas faire, tu vas penser à cette personne.
Ouais,
tu vas prendre ton café, tu sors ta tasse, tu penses à la personne.
Ouais.
Tu sens ses vêtements, tu penses à la personne. Tu regardes un
message,
ancien message,
un audio, c'est horrible.
Tu entends sa voix, ça te rend dingue.
C'est un truc de fou.
Et faut vivre avec. Et oui, on n'est jamais préparé.
Jamais.
C'est peut-être, ça va peut-être rendre service déjà à notre communauté, ce film-là.
Ouais.
Bah oui, parce que.
Quand on connaît des êtres humains, on n'est pas des murs, on n'est pas des tables, on n'est pas des chaises.
Ouais.
On n'est pas on n'est pas fait en bois.
Donc,
et chacun le vit à sa manière.
À sa manière. Voilà. Il faut l'accepter.
Et il n'y a pas de solution. Chacun le vit à sa manière. Après, on peut se raccrocher à un enfant, à une passion. Moi, j'ai décidé de faire un film. C'est ma thérapie. Et j'ai décidé de transformer tout ça. C'est la résilience. Hein. Le but de la résilience, c'est vraiment ça. C'est transformer son épreuve, son traumatisme en carburant, en quelque chose pour avancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et moi, ça m'a fait grandir. Même si le film, admettons, on ne le sort pas. Mais je me sens super bien, je suis apaisé. Et c'est un plaisir d'en parler. Et je suis content.
À chaque fois
que j'en parle, je suis content parce que...
Je pense que déjà c'est une victoire entre guillemets d'avoir eu le courage, même pas le fait d'avoir filmé, de le sortir, juste le courage d'écrire et de te dire je vais faire un film. Déjà je trouve que c'est hyper courageux. Sincèrement je pourrais pas le faire, et encore plus quand en fait t'es dedans, tu joues dedans et ça te parle.
C'est ce que t'as vécu. Ça c'est un truc de fou. C'est créer pour une... moi, c'est...
Ouais, non, c'est fort. Mais créer une fiction, tu vois, une fiction, on aurait pu dire, bah écoute, je vais aborder le thème du deuil, je vais créer une fiction. Je pense que c'est pas pareil. Mais est-ce qu'il y a des gens de ta famille qui l'ont déjà vu?
Il y a ma sœur qui l'a déjà vu.
Alors?
Il y a ma sœur qui l'a déjà vu. Je devrais pas le dire, mais la personne qui est à côté de moi, elle l'a déjà vu aussi.
Ah, j'étais sonné, moi.
C'est pas moi. Alors, si c'est pas moi, c'est... Toi, t'étais sonné, ouais. Ah, moi, mouchoir ou pas?
Ah, j'étais à deux doigts, je me retenais. Ouais. Il était à côté de moi, je me retenais, j'étais là. Il y avait la veine sur le front qui sortait. Ah, franchement,
donc, c'était... c'est fort, ce qui va...
Il a vu. Hein, ouais. Comportement, j'ai... C'est pour ça que je parle avec ton pote et tout, je me suis sauvé après derrière. J'arrive, allez, salut, votre ami.
Et toi, quand tu l'as vu alors, qu'est-ce que ça t'a fait?
Bah, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement okay. ce que je voulais. Et franchement, en plus, ça a commencé dès les castings parce que mes comédiens, ils sont exceptionnels. On a Kany Diarra qui joue le rôle de la maman, qui est une comédienne connue qu'on a vue dans Banlieusard. Elle est généreuse, c'est incroyable de me retrouver face à elle. Et on a Kassim Traoré qui joue le rôle de Souleymane. Il a 7 ans, et il envoie, il est incroyable, il est naturel.
Donc déjà le casting grand cadeau. Quoi.
Le casting grand cadeau. Et quand je les ai vus, j'ai compris que c'était mes personnages. Mais tout de suite, pour Kassim, on a eu 8 comédiens et 8 enfants qui sont venus en casting. Mais quand je l'ai vu...
Coup de foudre.
Mais en plus, il n'était même pas prévu. D'accord. Mon casting, il était déjà bouclé. Et
je peux te couper la parole, pardon, et te dire, faut que tu mettes en avant ce que tu as eu à la prépa, qui a fait que tu as failli pas faire le film.
Voilà. Ah, ça, ouais, les important. Barrières, faut en parler.
Alors, ce film, moi, il m'a appris quelque chose, la patience. Voilà. Nous, en général, l'humain, il est toujours
trop pressé,
alors que ça sert à rien d'être pressé. Et là, 5 jours avant le début de tournage, à la base, je devais le co-réaliser avec une autre réalisatrice. Et sauf que 5 jours avant, elle décide de me lâcher. Donc je me retrouve.
Pour quelle raison?
Elle décide de me lâcher parce qu'en fait, je me suis pris la tête avec son assistante réelle parce qu'elle ne faisait pas son travail. Et l'assistante réelle a décidé de partir. Et comme c'était sa copine, donc elle a dit, bon, elle suit sa copine. Alors qu'on a fait 2 mois de prépa juste avant. On avait tout était bouclé.
T'étais au bout de ta vie.
Mais non, mais je me suis dit à ce moment-là, attends. Dans 5 jours, je me suis dit, il y a de l'argent qui est en jeu, il y a des gens, il y a une équipe de tournage, il y a des décors. Je dis, oulala. J'ai appelé Adama, je lui ai dit, Adama, tu sais pas quoi? Il me dit quoi? Je lui ai dit, la réalisatrice, elle se barre et tout. Il m'a dit, non, Et là, j'ai réfléchi, j'ai pris du temps et j'ai trouvé une solution avec Eric Debrosse, que je connais déjà depuis 20 ans parce qu'on s'est connus dans la déco. Et je lui passe un coup de fil et c'est comme ça qu'il m'a rejoint sur le projet. Mais je me suis dit, mais t'imagines, 5 jours avant.
Et à la base, c'était le premier choix, il ne pouvait pas.
Voilà, à la base, c'était le premier choix, c'était Eric Debrosse. Voilà. Mais.
Des petites galères, enfin des petites.
Ouais, on va dire des petites galères, ça ne s'est pas fait. Voilà. Et du coup, je me suis tourné. Cette réalisatrice, j'ai tourné dans un de ses courts-métrages au mois de juin. On s'est bien entendu, et puis je lui ai montré mon scénario. Elle a adoré, elle m'a dit, ah ouais, super.
Ça s'est fait comme ça.
Et là, je me suis dit, mais quand même, 5 jours avant, la nana se barre. Je me dis, franchement, il peut plus rien
m'arriver de pire, ouais.
Sur ce projet.
Ça y est,
je me suis dit, je suis vacciné.
Et alors, il t'est arrivé autre chose?
Ouais. C'est un truc de fou, quand même.
Il y a eu des petites péripéties, mais dans l'ensemble. Voilà, c'est
mais il y a toujours des péripéties, même chez les grands, hein, c'est ça. On peut le dire.
C'est ça. Bien sûr. Et là, c'est vrai que j'ai une belle équipe autour de moi, mais ça m'a appris la patience. Je me suis dit, il ne faut pas se prendre la tête. Ouais. Il y a des choses plus graves dans la vie. Là, on est en train de faire un film, c'est super ce qu'on fait. Il y a une belle équipe, il y a une bonne énergie. Et c'est pas tout le monde qui a la chance de faire un film. Nous, on a la chance de faire un film. C'est super, c'est incroyable. C'est une belle aventure.
Donc un film autofinancé, hein, je le rappelle.
C'est ça.
Qui t'a pris combien de temps du début, même on va dire à l'écriture?
Bah, l'écriture, j'ai commencé à écrire en avril 2023.
Ok.
Voilà, et j'ai fini à peu près en septembre, parce que après il y a des réécritures.
Oui, j'imagine. Réécritures,
et
plusieurs versions. Ouais.
Et plusieurs versions. Et sur la fin de mon écriture, il y a un scénariste professionnel qui m'a rejoint vraiment pour mettre les choses en, dans les normes, parce que scénariste,
c'est un métier.
C'est un métier, c'est clair.
Donc, qui s'appelle Souleymane Bouel, d'ailleurs, je lui passe un petit coucou.
Et, il a changé beaucoup de choses ou pas?
Non, il n'a pas changé, beaucoup de choses. Et on a juste
restructuré.
Okay. Voilà, restructuré. Et après, voilà, après, ça s'est enchaîné très vite après.
C'est un film qui dure combien de temps?
Il dure 15 minutes. En fait, okay. On était obligé de. On a les formats pour le Festival de Cannes qui est 15 minutes. À la base, on voulait faire un format un petit peu plus long et un peu plus court, mais on s'est dit, bon, ça demande énormément de travail. Ouais. On a dit, on va rester sur du 15 minutes, c'est bien. Si on embarque les gens pendant 15 minutes, c'est super. Enfin.
Merci Mamadou. Je propose qu'on fasse une pause. Alors là, c'est toi qui as choisi le prochain titre.
Ouais.
On va écouter. Aretha Franklin, je vais bien dire Aretha Franklin, respect sur IDFM Radio, un peu de joie et de bonne humeur.
Ouais,
à tout de suite. De retour sur IDFM Radio 98FM. Aujourd'hui, on parle cinéma, mais plein d'autres choses en réalité. On parle résilience,
ouais.
Mamadou. On parle deuil, on parle continuer.
Reconstruction.
Ouais, continuer de vivre après un décès.
Ouais.
Et dans le cinéma, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films qui l'abordent ou alors.
Très peu.
Ouais, c'est pas. En tout cas, pas sur le parcours. Il y a des morts dans les films.
Voilà.
Mais sur la reconstruction. Et moi, j'aime bien mettre quand même l'accent sur, chez les Africains, en fait, on n'en parle pas, c'est un peu tabou.
On parle pas
effectivement,
assez, ouais.
On ne doit pas pleurer, on doit rester fort.
Et des fois, même dans les membres de la famille, ils ne se posent même pas la question, ouais, toi, comment tu vis ton deuil,
ouais.
En fait, c'est vrai.
Ouais.
Mais c'est...
Ouais, c'est...
Tu dois vivre comme ça et c'est pas autrement.
Voilà,
non,
c'est ça. Bah non,
tu peux pas.
Bah oui,
impossible.
Faut en parler, faut en discuter.
Et pour revenir à ce qu'on s'est dit en off, c'est que moi, ça a été ma force de voir un psychologue.
Ouais. Ça aussi, la culture du psychologue nous, ça existe.
C'était oui. Pas. Qui quoi ouais. Tu as raconté qui, quoi, comment.
Mais c'est ça.
Va manger ta chambre.
Alors, c'est vrai.
Et ça, on en parle aussi dans Résilience. Et justement, parce que la sœur de Djibril, elle a été voir un psychologue.
D'accord.
Et lui, Djibril, il n'a pas envie d'aller voir un psychologue. Mais il va se rendre compte qu'en allant voir un psychologue, ça lui fait du bien de parler de sa souffrance.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'était important d'aborder ce sujet-là. Parce que, en fait, c'est pas parce que tu vas parler à un inconnu de ta souffrance que ça, tu.
Que t'es faible
que
ou que t'es.
Faible.
Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est du bon sens aussi, hein, mais il faut que ça
fasse
changer les choses.
Chez nous, c'est pas...
c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça.
Non.
Mais ma mère m'a soutenu sur ça, en tout cas.
Ouais.
C'est bien.
Ouais, ma mère m'a soutenu.
En plus, à l'époque, franchement...
Elle comprenait pas trop le français. Mais c'est vrai qu'on a été soutenus à ce niveau-là, ouais. Alors, mon instit, mon club de rugby et ma mère, franchement...
Surtout quand t'es très jeune, en fait. Je pense que... Un peu dans ton malheur, ce qui t'a peut-être sauvé, c'est que le fait que tu étais encore un enfant, tu avais 8 ans.
Ouais.
Je pense qu'on est moins. On attend moins d'un enfant de 8 ans qu'un homme de 30 ou.
Ouais.
Ou la.
C'est 40 différent.
Ans, tu vois.
C'est différent, ouais. Parce que tu es encore dans ta construction.
Ouais.
Et quand tu as 40 ans ou 35 ou 38, tu te dis, comment je vais faire pour me reconstruire à travers ça. J'ai des enfants derrière.
Mmh. T'avais des enfants, t'as des enfants, toi, Mamadou ?
Oui, moi, j'ai des jumelles.
Parle bien dans le micro,
ouais. J'ai des jumelles de 14 ans.
D'accord, donc elles ont vécu avec toi.
Elles ont vécu avec moi
ce deuil.
Ce deuil-là, ouais.
Ok. Tu penses qu'elles verront le film ?
Oui, j'espère.
Ok.
J'espère, mais la première fois où j'ai parlé du film Résilience, j'ai été à une projection et c'est la première fois où je pitchais le film et mes filles étaient là. Et du coup, elles ont pleuré, j'ai pleuré.
Oui.
Et,
voilà. Forcément. Voilà. Mais c'est bien. Ouais.
Mais
c'est bien.
Ça va être quelque chose de fort. L'avant-première, ça va être avec ma famille là, ça va être incroyable.
Ouais. Se préparer.
Je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu.
Alors Adama, t'es avec nous, Adama Batili. Donc je l'ai dit, t'es acteur. Donc depuis maintenant combien de temps, Adama, ça fait.
J'ai faire ce métier en 2010. J'ai commencé.
En 2012, non ? 2011.
Ouais. Et le premier rôle, vrai rôle, 2014.
Alors aujourd'hui, on l'a dit, ça fait 11 ans, t'as roulé ta bosse.
Ouais.
Ah ouais, oh là là. Alors, quel parcours incroyable.
Quel regard toi t'as sur ton parcours? Alors c'est pas fini, moi t'as vu, je t'ai fait un commentaire, je t'ai dit la route est encore longue.
Elle est encore longue, ouais.
Faut avancer.
J'ai bien aimé.
Ouais, mais elle est très belle la route.
Elle
là.
Est belle, mais elle c'est pas fini.
Ah non, c'est que le début.
C'est pas fini, mais des fois faut regarder un peu dans le rétro et de se dire waouh. C'est incroyable.
C'est ce que tu me dis parce que je me trouve dur avec moi-même. Parce que il m'appelle, comme j'appelle. Hein. Il me dit le zinc, s'il te plaît, arrête d'être dur avec toi-même. Tu sais pas tout ce que tu fais au quotidien. Ouais. Toi, tu te regardes pas comme nous. T'as pas le même regard que nous. T'es dur avec toi-même. Et nous, on voit tous les ans, t'as 2-3 projets qui sortent.
Ouais.
Tu fais des exercices qui sortent sur toi. Il y a des. Oh, t'as ta vie de famille, t'as tes enfants, tu te rends pas compte de tout ce que tu fais en fait.
Tu vas sur Netflix, il y a au moins 4 projets, il est au moins sur 4-5 projets sur Netflix. Au bout d'un moment, faut. Ouais.
Mais est-ce que c'est pas cette rigueur et cette. Ces attentes qui font que justement il en est là?
Non, mais après, c'est super d'être perfectionniste comme ça, mais au bout d'un moment, faut.
Je veux toujours plus, mais je suis très satisfait de ce que j'ai accompli aujourd'hui.
Ouais. Bon, le dernier film, on en a parlé.
Ouais, je peux en parler aussi.
Ouais, comment ça s'est fait? Alors, Olivier Marchal, tu le connaissais déjà, t'avais déjà fait
tout le début, hein. tout. Moi, je t'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je venais de finir, je crois, Narvalo saison 2 avec Mathieu Longat. Par la suite, je suis validé sur le film avec, si je ne me trompe pas, avec. Jamel Debbouze.
Le jouet.
J'ai une petite journée, je suis le rôle de son voisin et tout. Et je passe les essais pour Overdose, pour le rôle de Marley. J'ai 9 jours dessus, j'ai un petit rôle. Et je passe les essais, on me dit non, c'est cuit et tout. Nanana. Et j'avais déjà eu un revers sur un projet. Et un comédien, quand il a refusé plusieurs fois, ça commence à cogiter. Tu te dis, je joue mal, je suis pas bon.
Ouais, tu te remets en question, mais c'est horrible.
C'est physique, c'est quoi? C'est très tard, parce que c'est sur ça en fait, tu vois. Alors pas du tout, des fois c'est juste sur un détail, on veut un plus jeune, on veut un mec qui paraît plus vieux, et voilà, tu vois. Vendredi, mon agent me dit, c'est cuit. Et je me rappelle, c'est même pas mon agent, c'est Alice Caron, qui était son ancienne assistante que j'embrasse, qui me dit, ouais, c'est cuit, ça n'a pas marché, désolé, ok, pas de problème. Elle me rappelle mardi matin.
Ça arrive jamais, ça, normalement, quand c'est cuit, c'est cuit.
Elle me dit, écoute, Adama, j'ai allô, Adama,
t'es toujours
tu vas
disponible
bien. Je dis, écoute, félicitations, t'as été validé. J'ai dit, quoi, qu'est-ce que tu me racontes, là? Je partais en réunion au boulot, parce que je travaille à la mairie de Gennevilliers, j'ai mon travail alimentaire, bien sûr. Très important de le souligner.
Et
qui me permet de vivre, grandir avec mes enfants, hein. Ma petite jungle. Et ce qui se passe, c'est qu'elle me dit, oui, t'as été validé, finalement, Olivier a matché pour sur ton jeu, a kiffé tes essais, t'as finalement validé. J'ai dit, oh là là.
Ah, tu n'avais pas raconté ça. Ça, c'est sur Overdose.
Overdose.
Okay. Le premier projet avec Olivier.
Avec Olivier Marchal. Donc, moi, j'arrive et tout. J'arrive à l'hôtel du Grand Palace et tout, à Carcassonne. J'ai pris l'avion pour Toulouse. Et je suis validé. Et il me reçoit. Je lui dis, voilà, je suis très heureux d'être là. Merci pour ta confiance. Pour votre confiance, et là, vous voyez, je ne le connaissais pas. Il me dit, merci pour tes mots et tout. Merci à toi d'avoir accepté.
Mais c'est là où tu vois Kulchen que tu connaissais déjà.
Kulchen déjà, que je connaissais déjà.
Sophia Issaidi.
Oui, en fait, après, c'est une petite famille. Enfin, c'est un petit monde, hein.
Voilà.
Donc,
exactement.
Ils te reconnaissent
pas Kulchen, plus Nassim Lies et Sophia Issaidi. Et j'entame les 9 jours, une partie à Carcassonne et une partie à Paris.
Ok.
Et franchement, il y a un coup de foudre entre Olivier et moi. Je le considère comme mon tonton. Et il me rappelle, le film se passe bien, on tourne bien et tout, on kiffe et tout. On tournait ça à Foix, à une heure de Carcassonne, petite ville cachée et tout. Et le film se termine, on reste en contact, on discute, on parle un peu sur WhatsApp et tout. Plus de son, plus d'images. On fait l'avant-première au cinéma Max Linder.
Ouais, Max Linder.
Max
ouais.
Linder à Paris, ouais. En face du Grand Rex. Et j'apprends qu'il prépare Pax Macilla saison 1. Il ne fait pas de retour, il ne me dit rien. Je reçois un appel.
C'est une série, hein, Pax Macilla.
Ouais,
série,
ouais, série.
Sur Netflix. Je reçois un appel de sa directrice de casting qui m'avait reçu pour Overdose, Claire Andrieux, que j'embrasse très fort d'ailleurs, qui a un amour, et qui me dit écoute, on a pensé à toi pour un rôle pour la série Pax Macilla. Normalement, c'était la série Bronx, mais en fait, il a changé de nom. Pax Macilla à Marseille. J'ai dit ok, bah, pas de problème. Envoie-moi des essais pour qu'on se voit. Et toi, me dis non, mais t'as pas compris, t'as été validé déjà.
Nous, ah ouais, le mec, il passe pas de casting. Il passe pas des essais. tu m'avais pas raconté ça.
J'arrête, Claire. Il me dit si, nous, on a kiffé ton jeu, on sait de quoi t'es capable, on a vu ton comportement sur le plateau. Voilà, nous, t'es avec nous, appelle ton agent David et tu qui négocie. Et puis voilà quoi. J'arrête. J'ai un truc de ouf. Et ce qui est bien, c'est que juste avant ça, j'avais entamé aussi, ça je voulais en parler avec toi, mon processus pour perdre du poids.
Mais oui.
Voilà.
On peut le dire, combien de poids t'as perdu parce que...
87 kilos.
Waouh.
Mais oui, mais... non, mais pour que les auditeurs se rendent compte, moi je t'ai vu...
Tu m'as vu fin, tu m'as vu
Je t'ai vu fin, je t'ai vu bouboule et je t'ai revu fin là. Alors. Mais sur les réseaux, ça m'a choqué.
Ouais, j'ai perdu 87 kilos, j'ai fait une chirurgie bariatrique.
Transformation.
J'ai été avec ma mère voir mon médecin traitant, je lui ai dit voilà, je commence à faire de la pluie du sommeil sévère. Je sens que je suis tout le temps fatigué.
Donc ça, c'est par rapport à la santé que tu avais.
La santé, ouais.
T'avais,
voilà,
t'avais,
c'est pas par rapport au cinéma, c'est la santé. Okay. C'est ma santé, récupérer ma silhouette. Que j'avais il y a 10 ans.
Oui. T'as toujours été mince en plus.
Un bouboule, un petit peu bouboule, un peu mince, mais pas
t'avais des joues.
Ouais, j'ai des joues, mais j'étais pas.
Ouais, là c'était
énorme.
Trop.
Là c'était trop. Là c'était obésité morbide et ça commençait à être compliqué.
85 kilos.
Ouais, wow. 87, ouais. Oh. J'ai regardé 87. Là. J'insiste sur les 2 kilos en plus.
Ah ouais, ouais, non, mais c'est... Donc en combien de temps tu perds tout ça?
Un an et demi, quasiment.
Wow.
Et j'ai fait 6 mois de réflexion. J'étais en chirurgien comme un conseiller à Clinique du Landy, qui est devenu un tonton, Dr Ganem, que j'embrasse d'ailleurs. Et suite à ça, j'ai fait toutes les analyses sanguines. Ouais, donc voilà. J'ai fait des efforts physiques, j'ai fait un check-up, ils ont surveillé mon sommeil. Ils ont vu que je faisais 55 apnées par heure. C'est incroyable. Ouais,
et là, ça c'est mieux là?
Ah, j'en fais plus. Peut-être très peu, mais comme tout le monde, mais.
Donc, contrôle technique, ok, aujourd'hui, t'es
tout neuf. Technique, il est un champ full option jusqu'en.
Elle est toute neuve, la voiture est toute neuve.
C'est pas tous les deux ans, là, c'est vraiment 10 piges, tu vois. Du coup, pendant un an, j'étais en mi-temps thérapeutique et. Je me suis fait opérer le 1er juin 2023 et j'étais en mi-temps thérapeutique pendant quasiment un an. Et en même temps, je faisais des efforts physiques et je faisais attention à ce que je mangeais, j'ai géré. Et puis, j'ai réussi à perdre mes kilos, à retrouver ma forme olympique, on va dire. Voilà, du coup, je suis de la course à pied, je suis du crossfit, je fais un peu de boxe.
Et... pas, de la piscine, de l'acrobranche, du truc, tout, c'est bien.
Pas et j'ai récupéré ma forme, voilà.
Et aujourd'hui, t'es satisfait?
Plus que satisfait.
Et tu penses que ça va t'ouvrir des portes ou pas?
Je sais pas.
Peut-être qu'on verra.
Entre-temps, là, après, t'as fait le troisième projet.
J'ai fait Pax Macilla. Et Pax Macilla est sorti. J'ai eu beaucoup, beaucoup de très, très bons retours.
Ouais, c'était cool, ouais.
Suite à ma performance, apparemment, quand je me fais torturer, je joue bien.
J'ai encore du sang, on a dit. Je joue bien la douleur. Hein.
À la douleur, et les gens m'ont dit, on voulait rentrer dans la télé pour défendre, taper Samir Bouattar, que j'embrasse.
Non, mais c'est vrai, ça fait bizarre de voir quelqu'un qu'on connaît comme ça, ensemble. Voilà.
Et l'année dernière, suite à mes efforts, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que...
Il me dis pas qu'il t'a rappelé sans casting.
Si, il m'appelle, il me dit... Claire m'appelle, me dit écoute, on a un rôle pour toi, un rôle de Tyson.
En plus, il est fan de
Mac. Ouais, je suis très, très, depuis tout petit, je suis un très, très grand fan. C'est mon idole, en fait. C'est mon idole du noble art. Il y a Mohamed Ali avant, mais c'est plus lui, moi, ma génération, c'est plus Tyson.
Ouais.
Et je suis plus fan de sa boxe à lui que celle de Mohamed Ali. Et il me dit voilà, on a un rôle pour toi pour le film Bastion 36. Il m'a entendu 36 Quai des Orfèvres. Du coup, On te veut.
C'est incroyable.
Voilà, on te veut. Donc, si tu tiens le scénario, tu lis, t'acceptes ou tu refuses. Mais en tout cas, nous, on te veut avec nous, on te kiffe et viens kiffer avec nous, quoi. Et j'ai lu le scénario, j'ai kiffé. J'ai kiffé mon rôle et puis voilà, je suis content des retours. Parce que le film est en
plateforme. J'ai vu combien de millions de vues là en
18
l'espace.
Millions en 10 jours. On est 3e mondial, on est numéro 1 français. Ouais. Jusqu'à la semaine dernière, on était numéro 1 français. Et je suis très content de ma performance parce que moi, c'est le retour que j'ai en fait du milieu et des gens autour de moi, des proches qui ont kiffé et apprécié mon jeu et ma séquence. Donc voilà, je suis content.
Ouais, et puis en plus, c'est un rôle très, très important parce que c'est à ce moment-là où il y a.
Oui, c'est un petit rôle et c'est un rôle secondaire, mais c'est ça qui fait la bascule.
Qui
met le film dans une autre dimension en fait, dans une autre direction. Donc voilà, je suis content.
C'était le personnage clé de.
Un des personnages clés, soit dit.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà.
Alors la suite, Adama, c'est quoi?
Pour l'instant, il n'y a rien. Ma santé.
Mais attends, le téléphone peut sonner demain.
Ouais,
on ne sait jamais.
Pas, peut-être. Hein. Peut-être.
Le documentaire, non?
Oui, j'ai fait. Ouh là là, j'ai oublié. T'as bien fait de me dire. Oh là là,
heureusement que tu l'as ramené.
Il y a un journaliste qui s'appelle Sami Sfaxi, qui travaille pour une grosse chaîne de télévision, je ne peux pas la dire. Et qui m'a contacté via un ami qu'on a en commun, Faisal, que j'embrasse. Faisal Mestawi, qui cherchait une jeune figure de la ville pour parler de son parcours, de son vécu, pour donner une bonne image de la banlieue, de la réussite, de l'entraide qu'on a autour de nous. Et il a proposé mon personnage, ma vie. Et on s'est rencontrés au mois de juin, juillet. Et il m'a suivi, il me suit depuis le mois de juin.
Donc il y aura un documentaire sur Adama Batili. Ouais. Incroyable.
Sur ma vie, sur ce que j'ai vécu, sur mon papa. On a commencé avec deux places par Sémar.
Vous avez été là-bas?
On a filmé devant à la place, ouais. Et puis voilà.
Et alors, date de sortie, on a une idée ou pas?
Pas encore. Okay, je pense courant 2025, ouais. Okay. Ça sera peut-être pour une plateforme.
Des beaux projets alors.
Je crois qu'il va nous faire pleurer le documentaire. Ouais.
Mais non, souci, on va pas arrêter de chialer cette année encore.
Parce que c'est sur toute ma vie et sur ce que j'ai vécu. Donc.
Ouais. Bon. Voilà. Des beaux projets en tout cas.
Ouais.
Et moi, je pense que vous êtes des exemples pour les jeunes, les moins jeunes. Allez-y, en fait, faites ce que vous aimez, et c'est le message qu'on peut faire passer.
Voilà.
Mamadou, qu'est-ce que tu dirais pour le mot de la fin? Parce que vous savez qu'on arrive à la fin de l'émission.
Ça fait déjà
une heure.
Ouais. Incroyable.
Ça fait déjà une heure, donc le micro est à vous. Mamadou, je vais te laisser la parole. Adama, je te laisserai la parole.
Alors, le mot de la fin, moi, c'est ce que je peux dire, c'est on a tous des gens qui sont compétents et talentueux autour de nous. Donc, des fois, quand on veut faire un projet, il faut juste regarder autour de nous parce qu'on travaille mieux quand on a des gens qui sont bienveillants et quand il y a beaucoup d'amour et quand il y a une bonne énergie. Donc, c'est ça mon message. Et aussi, faites ce que vous aimez, c'est important, c'est la base. Il n'y a pas mieux que de faire un truc qu'on aime. Vraiment, voilà ce que je peux dire.
Merci Mamadou. Adama,
moi, je rejoins Mamadou pour dire que faites ce que vous aimez. Avec passion, rigueur et détermination. Le travail, ça n'a pas de prix. Donnez-vous les moyens d'y arriver. N'écoutez personne. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous, plus profond de votre âme, dans vos tripes. Allez jusqu'au bout de vos rêves et puis voilà.
Tout est possible.
Tout est possible.
Bravo, persévérance.
Persévérance.
Finalement, il n'y a pas de barrière.
Il n'y a pas de barrière. Sinon, on se met des barrières psychologiques. Il n'y en a pas. Vraiment. J'en suis la preuve.
Merci Adama Batili, je rappelle que tu es à l'affiche, enfin non pas à l'affiche mais comme on peut dire,
c'est
casting, c'est à l'affiche
casting,
de Bastion 36, j'ai pas encore les codes du cinéma.
Bastion 36 d'Olivier Marchal, qui est sorti le 28 février.
Dispo sur Netflix.
Sur Netflix, et il y a un petit article sur Parisien
qui
est sorti.
Ouais, j'ai lu, trop bien, ouais.
Le 28 février aussi, qui retrace un peu mon parcours et ma vie, voilà. Donc... je suis très content.
Merci.
J'espère te voir à l'avant-première du film Résilience.
Bien sûr, je serai là. Je serai là. Si ce n'est pas à Cannes, je serai là.
Non, tu seras là. Ce sera à Paris, t'inquiète.
Mamadou Traoré, merci. Je rappelle que tu sors ton court-métrage Résilience, donc qui parle du deuil.
C'est ça.
Et qu'on aura plaisir, en tout cas, à venir. Enfin, j'aurai plaisir à venir voir. On peut te retrouver sur les réseaux. On peut vous retrouver sur les réseaux.
Oui, alors.
Tu veux rajouter quelque chose?
Il faut aller suivre la page Insta du film Résilience. Tirer du bas le film, c'est important parce qu'il y aura toutes les informations.
On va le partager
pour l'avant-première.
Ok.
Donc voilà, et puis.
Et suivre l'actualité peut-être.
Suivre l'actualité du film. Là, il va se passer des petites choses. Là, donc
ok.
C'est...
Donc, super. Donc, résilience, le film, résilience tiré du bas, le film sur Instagram. Voilà. Adama, toi, on peut te suivre sur Insta.
Adama Bacili, tout simplement. Insta, Facebook, Snap.
Partout.
Tout partout.
De toute façon, on va tout remettre sur le site internet de la radio. Si vous nous rejoignez à la fin de cette émission, pas de panique, vous pourrez la réécouter en podcast sur le site internet de la radio, idfm98.fr. Et nous, on mettra vraiment toutes les infos pour vous retrouver sur les réseaux et suivre votre actualité. Merci à vous,
cool.
Messieurs.
Merci.
Bonne journée. Bon week-end.
Bon week-end.